Merci pour ce moment d'adoration, de louange que vous nous avez offert. C'est un très beau moment. Je ne sais pas ce que vous en avez passé, en tout cas moi, j'ai passé un très beau moment. Effectivement, je nous invite à méditer, à réfléchir sur ce qu'est la justice pendant deux dimanches. Là, on va faire ça ce dimanche et puis le dimanche 16 septembre. Et puis, dès que j'ai pensé à justice pour moi en tant que papa, j'ai pensé à ça. Parce que si je pense à justice, c'est que je pense souvent à injustice. Et puis, les personnes les plus aptes à exprimer le plus fort l'injustice, ce sont les enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Si vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas juste avec eux, vous avez souvent droit à ce genre de tête comme ça qui vous braille dessus, puis qui vous dit « c'est pas juste, c'était lui d'abord, ou bien c'est lui qui a commencé, pourquoi tu me grondes moins, puis pas lui, etc. etc. » Je suis sûr que même les grands-parents, des fois, vous entendez ça. Même si vous êtes un peu gâteau et que vous faites beaucoup plus de largeur que nous, vous entendez aussi parfois ça. On se rend compte que déjà même avec les enfants, ils s'expriment facilement et puis on a facilement le résultat de savoir s'ils trouvent ça juste ou pas juste. Ça c'est bon, c'est plus visible que chez les adultes. Par contre, on se rend compte que même déjà avec eux, c'est très complexe de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mener la petite enquête pour savoir si vous interrogez X puis que vous interrogez Y, généralement les versions seront plutôt opposées. Donc, on se rend compte que c'est assez complexe de traiter ce thème de la justice. Pourtant, j'y vais gaiement et puis nous y allons tous ensemble. On se rend compte que c'est complexe. Juste cette semaine, j'avais l'intention déjà de choisir ce thème et puis cette semaine est sortie cette histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire avec un de mes collègues de l'AFRE, donc Norbert Vallet, qui était pasteur avant ici à Gland, qui s'est fait condamner par la justice neuchâteloise pour avoir donné à manger et offert un lit, tout simplement, à un réfugié qui était en fin de droit dans la région du Locle. Donc là, vous avez l'article qui est sorti sur le site de notre fédération d'église, l'AFRE.ch. Vous allez voir qu'au niveau des titres, il y a certains qui sont beaucoup plus forts, comme ça, je vous laisse voir la différence. Ça, c'est le 20 minutes. Vous avez « La police cueille le pasteur lors du culte du dimanche » ou bien « Un pasteur de l'AFRE condamné pour avoir hébergé et nourri un réfugié en fin de droit ». Je vous laisse savoir lequel est le plus accrocheur. Moi, je trouve que c'est celui-là. Mais bon, dans l'un, on a toute l'information. Ensuite, on peut lire la suite. Mais toujours est-il que cette histoire a fait du bruit, même juste dans d'autres, ça a fait les manchettes d'autres journaux. Ça a fait du bruit. Pourquoi ? Parce qu'on est face à cette question de savoir à quelle justice obéir. Est-ce que c'est la justice, celle qui vient de la loi suisse, qui interdit effectivement de donner à manger ou d'offrir le gîte à un réfugié en fait de droit ? C'est une interdiction, c'est dans la loi. Et la loi finalement divine, ou la liberté de conscience, qui nous dit d'aimer son prochain, puis le prochain c'est celui qui est proche de nous, et puis que parfois on ne sait pas quel est son statut exact. Quelle justice, dans ces cas-là, faut-il suivre ? Conscience contre respect des lois. Et puis, en plus, si on pousse un peu plus loin, c'est assez rigolo de voir que dans la même loi suisse, il y a quelques articles plus loin, un article qui dit que si on ne donne pas assistance à une personne en danger, on est aussi punissable par la loi. Donc, allez vous en sortir avec la justice, on se rend compte que c'est complexe, puis ce n'est pas le nombre d'avocats que l'on croise dans les rues qui vont me dire le contraire. Si la justice était une affaire simple, il y aurait nettement moins d'avocats, juristes et autres personnes qui travaillent dans ce domaine-là. C'est une affaire complexe, et si on ajoute encore cette question de la conscience chrétienne, de l'éclairage de la parole, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Mais pourtant, on va essayer de creuser et puis de voir ce que la parole a à nous dire sur cette question-là de la justice. Toujours est-il qu'elle fait partie de notre vie de tous les jours. Si on écoute un poil la radio, si on lit un poil le 20 minutes, si on est en phase avec notre société, tous les jours on se rend compte qu'on est confronté à cette question, justice à justice, menteur, fourberie, corruption, trafic de je ne sais pas tout quoi. On est constamment pris avec cette question-là. Tous les jours, nous y sommes confrontés. Ça nous dit simplement, c'est un grand rappel que je vous fais là, la réalité d'un monde déchu, d'un monde qui est avide d'injustice, d'un monde qui est condamné par le péché depuis la chute Et nous faisons partie aussi en tant qu'individu de ce monde-là. On n'est pas, nous, les petits parfaits face à la société qui serait très, très mauvaise. Nous faisons partie de ce monde déchu et même, j'ai le malheur de vous annoncer, que nous y participons. On n'est pas parfait. On est aux prises aussi, nous, avec des actions justes, mais aussi des actions injustes. C'est notre réalité. Et pourtant, le Dieu que nous venons de chanter, ce Dieu qui est majestueux, qui règne dans le ciel, il décide consciemment de se révéler dans ce monde-là. Il n'a pas choisi de créer un monde nouveau, meilleur, qui serait déjà parfait. Il choisit de se révéler et d'apporter sa lumière, sa vérité, sa vie dans ce monde-là. Pas dans un autre monde, mais dans celui-là. Donc, en tant que chrétien, c'est presque impossible pour nous d'être simplement des pessimistes qui déclarons que tout va mal et que tout va à la perdition éternelle. Il y a aussi cette deuxième réalité de la révélation et de ce Dieu qui vient apporter son salut dans le monde. Péché versus salut, on est là, justice et injustice, nous y sommes au cœur de cette problématique. Et pour l'illustrer, avec le conseil puis différents membres de notre communauté, on a décidé ces prochains mois de nous concentrer sur une figure qui nous a marqué, en tout cas qui m'a marqué personnellement parce qu'elle m'inspire, c'est cette figure de cette personne-là, Martin Luther King, qui va faire l'objet d'une exposition pour 2 mois dans nos locaux qui sera ouverte, on espère, le plus souvent possible, mais en tout cas les mercredis, jeudis et vendredis, pour faire connaître l'héritage de la pensée de cet homme, de la pensée et de l'action de cet homme, notamment sur ces thèmes de la justice et de l'injustice. Alors évidemment, quand on choisit de mettre une figure en avant, on a toujours le risque un peu que ça devienne un peu le saint de la frate pour les 2 prochains mois. Ce n'est pas le but, plutôt de se dire en quoi sa pensée peut encore nous inspirer, nous impacter maintenant, en quoi sa pensée peut nous entraîner à peut-être de nouvelles actions et aller de l'avant. Je vous en dis quand même quelques mots. C'était un pasteur baptiste. Là, c'est un peu pour moi, parce que je suis d'origine baptiste, donc ça me touche particulièrement, non-violent, et puis qui a consacré et perdu sa vie pour permettre aux autres personnes noires, comme lui, de vivre dans la dignité aux États-Unis. Parce qu'en effet, il est mort, assassiné à 39 ans, mon âge, et puis cette année, en fait, les 50 ans, de cet assassinat qui a eu lieu donc en 1968, le 4 avril 1968. Et puis ce qui est intéressant avec cette vie, cette action, cette pensée, ces écrits qui nous restent, c'est de voir que même 50 ans plus tard, les enjeux que Martin Luther King a pointés, ils sont d'une actualité impressionnante. Ils pointent sur des éléments qui, d'après moi, sont au cœur de l'homme et qui restent valables pour nous encore maintenant. Même 50 ans après, sa pensée, elle n'a pas pris beaucoup, beaucoup de rides, notamment sur ce domaine de la justice. Sa pensée, elle est fortement influencée par sa lecture des textes bibliques, par sa lecture des prophètes, par sa foi chrétienne. C'était un pasteur avant tout, puis un pasteur qui a décidé de sortir de son église pour aller retrouver celles et ceux qui pensaient avoir véritablement besoin de ce message libérateur de l'Évangile. Il l'a mis en œuvre, il n'a pas été parfait dans sa mise en œuvre, de loin pas, mais il est allé en action, il s'est vraiment donné corps et âme pour cette cause-là, inspiré par le Seigneur. Il a vécu une expérience spirituelle extrêmement forte, une expérience vraiment de cœur à cœur avec Dieu, d'intimité avec Dieu, et suite à cette expérience, il a décidé de s'engager. Ensuite, c'est un train qui ne s'est plus arrêté finalement. Il est continué, il n'a plus jamais remis en cause cette vocation-là. Son combat principal, il est assez simple finalement à résumer, il est illustré par cette photo-là, c'est que jusque dans les années 60, c'est-à-dire il n'y a pas tellement longtemps quand même, 50 ans, plusieurs d'entre nous étaient déjà nés à cette époque-là. Par exemple, des éléments aussi simples que de prendre le bus, si vous étiez noir, vous n'aviez juste pas le droit de vous asseoir. C'est la réalité dans laquelle il vivait, et puis s'il y avait un personnage blanc qui venait, eh ben, il pouvait même vous faire descendre du bus parce que ça pouvait le déranger, simplement parce que vous n'aviez pas la bonne couleur de peau. C'est le contexte dans lequel il était. Et ce contexte-là était soutenu par des lois des États dans lesquels Martin Luther King se trouvait. Donc finalement, c'était considéré par la société comme étant juste. La loi justifiait ce genre de pratique. Et pour lui, de nouveau, ce combat conscience contre les lois civiles, pour lui, ce n'était pas soutenable au niveau de sa conscience de se dire qu'il y avait une catégorie de citoyens et bien en dessous, une deuxième catégorie de citoyens. Donc toute sa vie, il a mené ce combat contre cette ségrégation-là. Et ce que je trouve encore plus intéressant dans son cas, c'est que personnellement, Martin Luther King, en tant que personne, il était déjà dans un autre état qui avait permis à certains Noirs assez intelligents, assez éduqués, ayant déjà un certain revenu, de bénéficier d'espèces de passe-droit puis d'avoir un autre statut que tout le reste des Noirs. Donc, au niveau individuel, lui, la ségrégation, il l'a vécue de temps en temps, mais pas de manière décisive. Dans sa vie de tous les jours, il avait une maison, il avait une bonne situation familiale, il avait pu étudier dans les meilleures universités des États-Unis. À titre personnel, il n'avait pas besoin de s'engager pour ce combat. Et pourtant, il décide de le faire et de consacrer sa vie pleinement à ce combat-là. C'est un petit détail de sa biographie que je n'avais jamais remarqué, mais que je trouve très pertinent, de se dire que ce n'est pas sa situation personnelle qui l'a poussé à s'engager, mais c'est vraiment sa vocation plus large de croyant, de chrétien, qui l'engage sur ce chemin-là. J'ai parlé de ce côté prophétique, et puis je crois que dans toute sa pensée, c'est des textes comme celui que nous allons méditer ce matin qui l'ont influencé. On le trouve dans Le prophète que j'ai médité cet été. Là, je vous avais encouragé peut-être à lire un livre. Pour moi, ça a été le livre du prophète Ésaïe. Et qui nous dit cela au chapitre 32. Ce n'est pas un texte très, très connu, mais vous allez voir qu'il pointe bien sur cette question de la justice. « Alors le roi régnera pour la justice. » De nouveau, on voit pouvoir politique et la direction que Dieu donne, c'est pour la justice. « Quant aux princes, ils gouverneront pour l'équité. » Chacun sera comme un abri contre le vent et une cachette contre l'averse violente, comme des canaux d'irrigation dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus hagards et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Là, on a le versant positif du roi, du prince qui règne selon le cœur de Dieu, selon la justice, et on voit les conséquences positives qui en découlent presque naturellement. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus au fou le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car le fou profère la folie et son cœur trame le mal. Il se livre à la profanation et divague contre le Seigneur. Il laisse vide le gosier de l'affamé et il empêche l'assoiffé de boire. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Il projette des intrigues pour perdre les affligés par des paroles mensongères, même quand le déshérité est dans son droit. Mais celui qui est noble fait de nobles projets, et il s'en tient à ses nobles projets. Et un peu plus loin, jusqu'à ce qu'un souffle soit déversé sur nous d'en haut, que le désert se change en verger, que le verger soit considéré comme une forêt, alors l'équité demeurera dans le désert, et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et l'ouvrage de la justice, la tranquillité et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un domaine de paix, dans des demeures de confiance, dans des lieux de repos tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville abaissée au plus bas. Et ce verset qui conclut tout ce chapitre. Heureux êtes-vous, vous qui semez partout le long des eaux, laissant aller le bœuf et l'âne. Quelques pensées par rapport à ce texte magnifique, dense, que je vous invite à reméditer pour vous pendant les jours, les semaines qui viennent, c'est d'abord de voir que ces notions de justice et d'équité sont une priorité centrale dans le message biblique. Ce n'est pas un petit annexe de tout le reste qui pourrait nous dire « bon voilà, je mets ça en avant parce qu'on fait une exposition sur Martin Luther King ». Ce n'est pas du tout ça. La justice et l'équité sont des notions centrales, tant du Nouveau Testament qu'on va le voir la prochaine fois, que du Nouveau Testament et du message de Jésus. Ça traverse toute la Bible. Puis si vous vous en rendez compte, il y a une Bible au bureau, là, qui est une Bible qui a été éditée par l'ONG Compassion, qui met en stabilo bossé tous les passages de la parole qui nous parlent de justice, de pauvreté, de justice sociale, tous ces éléments-là. Puis en la feuilletant, on se rend compte qu'il y a énormément de couleurs dans nos Bibles. C'est intéressant, vous pouvez aller la voir là, c'est assez frappant de voir juste visuellement le nombre de passages, de versets qui nous parlent de cette justice. C'est archi présent dans la Bible, beaucoup plus qu'on pourrait peut-être ne le croire. La justice et l'équité, souvent dans la Bible, il y a un opposé. Et l'opposé, c'est la fourberie, le mensonge, enfin, toutes des notions qu'on ne connaît pas, évidemment, mais qu'on voit seulement chez les autres, qui sont là en opposition à celui qui essaye de se comporter dans la justice. Et c'est très intéressant de voir que souvent, cette justice et cette équité, en termes de rentabilité, ne sont pas rentables. Parce que le juste n'est pas forcément celui qui est le plus haut placé, qui a les meilleurs avantages. Et souvent, le juste voit le fourbe être mieux placé que lui. Et ça lui pose fréquemment un gros problème de conscience. Il dit, mais moi, j'essaye de faire au mieux, et pourtant, l'autre qui fait quelque chose de travers y arrive mieux. Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu ne me bénis pas plus d'une certaine façon? Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Et puis, c'est un peu ce que nous dit le psaume, par exemple, 119, ce très long psaume au verset 121 qui dit « J'ai agi selon le droit et la justice, ne me livre pas à mes oppresseurs. Garantis le bonheur de ton serviteur, que les orgueilleux, donc c'est-à-dire tous ceux qui ne suivent pas la justice, ne m'oppriment pas. » En négatif, ça veut bien dire qu'ils l'oppriment. « Mes yeux se sont usés à attendre ton salut, et à chercher les ordres de ta justice. » C'est fort, hein? Agis envers ton serviteur selon ta fidélité et enseigne-moi tes décrets. C'est de se dire que ce combat, cette lutte pour la justice, elle est de loin pas gagnée d'avance. Et toujours, le croyant, celui qui cherche à marcher sur ces sentiers de la justice, sera opposé à d'autres personnes qui ont peut-être plus de succès et qui vont être animées par la fourberie ou le mensonge. La justice, finalement, c'est quelque chose qui va assez en lien avec une vie simple. La promesse du prophète à la fin de ce passage que nous avons lu, elle ne nous promet pas monts et merveilles, elle nous dit simplement « Heureux êtes-vous, vous qui semez partout le long des eaux, laissant aller le bœuf et l'âne. » Finalement, quelque chose d'élémentaire, de constructif, qui permet à d'autres de vivre, parce que les cultures permettent à d'autres de vivre. C'est vraiment ça. Et que pour vivre cette vie-là, on a besoin de cette paix, de cette justice, de ce cadre favorable pour que la construction puisse se faire. Donc on ne nous promet pas monts et merveilles, mais on nous propose une vie finalement qui est empreinte de simplicité. Et pour terminer, on nous rappelle, et c'est peut-être des fois là qu'on a plus de peine à saisir, on l'a chanté à plusieurs reprises, je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, que cette justice-là, elle n'est pas que notre propre combat, elle est avant tout entre les mains de Dieu. Ce n'est pas une manière de se défausser de ce qu'on a à faire, de dire, voilà, c'est le rôle de Dieu, mais c'est une visée qui donne un espoir, car la justice est en Dieu, entre les mains de Dieu, et même si nos yeux, si on reprend l'expression du psalmiste, se sont usés à essayer de trouver la justice et de la voir dans ce monde, la foi nous invite à toujours mettre en avant l'action de Dieu. Nous invite à mettre en avant et ne pas l'oublier parce qu'elle reste là, elle reste pertinente. Mes yeux se sont usés à attendre ton salut et à chercher les ordres de ta justice. C'est quelque chose que le psalmiste doit expérimenter tout à nouveau parce qu'on peut être découragé. Et la vie de Martin Luther King, qu'on va aborder à différents moments, peut nous illustrer à merveille ce découragement qu'il y a lorsqu'on mène ce combat-là pour la justice. Alors, en tant que chrétien, on peut être un peu lassé par ce combat, ce qui est assez logique. On peut se dire, finalement, ce qui compte, ce n'est pas vraiment ça. Ce qui compte, c'est plutôt voilà, ma famille, mon cercle proche, c'est vrai aussi. Mais je ne pense pas que la parole nous invite à faire les autruches puis à mettre la tête dans le sable. Elle ne nous invite pas non plus à être la tête dans les nuages. Ça, c'est peut-être la version un peu plus spirituelle, comme ça. On se dit, on est en Dieu, on l'acclame, on l'adore, et puis on reste là un peu comme on a pu vivre ce matin. C'est des bons moments, mais si on ne fait que ça, je pense qu'il nous manque un peu, on est un peu boiteux sur notre vie de foi, sur notre vie avec Dieu, de disciple, au cœur du monde. On doit s'éprouver au cœur du monde. C'est vraiment pour nous un peu les deux tensions qu'on a, puis se dire, bon, on est sur cette arête de la justice, qu'on essaye de vivre au mieux, ni en faisant semblant de ne pas voir ce qui nous entoure, puis de ne pas voir les enjeux qui nous entourent, ni en pensant que tout va se régler simplement au niveau spirituel et que nous, on n'a rien à faire au niveau tout à fait concret dans notre vie de tous les jours. Et pour illustrer, je vous invite à écouter cette voix prophétique de Martin Luther King. Je vous donne juste le contexte d'un texte qu'il a écrit, qui moi m'a beaucoup impacté. C'est une lettre qu'il écrit en 1963. Il est au cœur de sa bataille contre les différentes instances politiques, policières qui ne sont pas d'accord de laisser ces citoyens noirs avoir le même statut que les citoyens blancs, tout simplement. Donc il y a une résistance forte. Et pour lui, son axe d'action, c'est l'action non violente. Donc il doit aussi être tout à fait prêt à assumer cet élément-là. S'il n'est pas prêt à l'assumer, il ne va pas au combat. Donc il se prépare à l'assumer. Et là, il va dans une ville qui est un peu plus loin que la ville où il est pasteur, qui s'appelle Birmingham. Et puis, il participe à des actions non violentes avec des dizaines, des centaines d'autres Noirs avec lui, ce qui le conduit à être arrêté par la police et mis en prison. Et de cette prison, il reçoit une lettre, c'est assez ironique comme situation, de ses collègues pasteurs blancs. Et puis, cette lettre l'encourage plutôt à dire « Mais pourquoi est-ce que tu agis comme ça maintenant ? Pourquoi est-ce que tu ne te soumets pas aux lois ? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu d'abord vers nous ? Puis on aurait pu discuter et puis regarder comment ça se passe. » Et puis, toutes des invitations pleines entre guillemets, de sagesse qui lui sont adressées alors que lui, il est en train de croupir au fond d'une prison. Toujours est-il qu'au fond d'une prison, il a du temps. Il prend du temps pour répondre. Et c'est cette lettre qui est appelée « Lettre de la prison de Birmingham ». Vous allez voir que les réminiscences aussi avec certains personnages bibliques comme Paul ou bien les prophètes sont vraiment assez évidentes. Alors, je vous en donne juste un extrait. Et c'est l'extrait qui ne répond pas directement à ces questions-là de « Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que ce n'est pas le bon moment ?» Mais c'est un extrait qui nous donne vraiment cette idée pour lui, et qui peut être la même pour nous, de cette grandeur au sens que la justice embrasse large. Ce n'est pas simplement des actions spécifiques, mais c'est une notion qui embrasse large. Alors voilà ce qu'il écrit. « Mieux encore, je suis conscient des interrelations qui lient... » Ouh là là. Il n'y a pas de prof dans la salle, bien sûr. « Qui lient toutes les communautés et tous les États. » Je ne peux rester inactif à Atlanta, le lieu où il habite, sans me soucier de ce qui se passe à Birmingham. » On retrouve l'idée de soit je fais l'autruche, soit je me dis que ma situation, j'ai envie de l'élargir et de voir si elle correspond à tout le monde. Toute injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Ça, je trouve que c'est une phrase assez fondamentale qui nous met en route. Toute injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs. Nous sommes pris dans un réseau de relations mutuelles, encore plus maintenant qu'il y a 50 ans, auxquelles nous ne pouvons échapper. On peut essayer de le faire, on ne va jamais y arriver. Notre destinée commune est un vêtement sans couture. Il n'y a pas de frontière. Ce qui affecte directement l'un de nous, nous affecte tous indirectement. Nous ne pourrons plus jamais nous permettre de vivre sur la notion étriquée et provinciale d'agitateur venu de l'extérieur. C'était une des accusations qui lui était adressée par les pasteurs de la communauté blanche de Birmingham. Quiconque vit aux États-Unis, pour mettre quiconque vit en Suisse, ne peut jamais être considéré comme venu de l'extérieur, où que ce soit à l'intérieur de leurs frontières. Il y a beaucoup de choses dans ce texte-là. C'est comme ça qu'il annonce, en gros, l'intention, puis ensuite il va dans les détails sur la manière de le mener. Mais je trouve ça très intéressant parce que si c'est exprimé par des mots humains, puis que ça reste un humain qui les exprime, on sent pour moi toute la théologie chrétienne qu'il y a derrière, de se dire que le combat n'est pas simplement un combat individuel, mais que c'est vraiment un combat qui est mené par le peuple de Dieu. Puis ce peuple de Dieu, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus homme ni femme, c'est un peuple qui n'a pas de frontières. Comme ce vêtement sans couture, je crois que nous, en tant que chrétiens, puis on le voit dans notre salle ici ce matin, on l'entend par nos prières, il y a des prières en plusieurs langues, on est dans ce vêtement sans couture, déjà dans l'Église, mais aussi dans notre société. On ne peut pas aller contre ce mouvement-là, il est là. Et puis c'est ce que nous dit ce texte-là, qui nous dit « Toute injustice, où qu'elle se produise finalement, est une menace pour la justice partout ailleurs. » Parce que ce qui se passe à 100 mètres, ou à 1 km, ou à 10 km de chez moi, ce qui se passe avec mon collègue Norbert Vallet, ça me concerne directement, peut-être pas je suis pasteur, mais ça nous concerne aussi tous, parce que nous sommes impliqués sur le même bateau, déjà en tant que croyants, puis même peut-être même en tant que citoyens. Comment on se positionne par rapport à cela? Et puis je rapproche un peu le propos très large, je le rapproche un peu de cette phrase-là, qui dit « Le bien-être d'une société se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. » C'est un peu trop grand, mais c'est « Le bien-être d'une société se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. » Vous pensez que je l'ai trouvée où, cette phrase? Non. La Constitution suisse, ouais. Exactement. C'est dans la Constitution suisse. « Le bien-être d'une société se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. » C'est vraiment un écho assez direct. « Toute injustice où qu'elle se produise est une menace pour la justice partout ailleurs. » On a vraiment cette idée de solidarité entre les différents membres d'un même ensemble social, d'un même groupe finalement, en l'occurrence pour nous, la Suisse. C'est intéressant de voir que dans la même Constitution, il y a ce principe général-là, puis qu'après on fasse des lois qui condamnent finalement quelqu'un qui essaye d'aller au-delà de la loi. Et pour terminer, je vais nous laisser ça en conclusion, c'est cette parole de Jésus à la fin de la parabole du bon samaritain, ou du samaritain, je ne sais pas s'il a dit bon, où Jésus, à travers cette parabole qu'on connaît certainement tous très bien, il est intéressant de voir qu'il répond à un maître de la loi. C'est un maître de la loi qui vient vers lui et puis qui commence à aller le titiller sur les principes et sur la direction que doivent prendre les chrétiens, les croyants de son temps, au niveau de la loi. Il lui dit, mais dis donc, Seigneur, quel est véritablement mon prochain au sens de la loi? Comment est-ce que je dois le comprendre? Et ensuite, il raconte cette parabole où quelqu'un se fait agresser, il est laissé sur le côté de la route. Un premier homme passe, il l'ignore, donc il fait l'autruche. Un deuxième homme passe, et chaque fois il le voit et il l'ignore, il fait comme s'il n'avait pas vu. Et un troisième homme, hors du pays, en l'occurrence un Samaritain, un étranger, s'arrête, le prend par la main, le voit et le soigne. Il finit simplement cette parabole et puis ensuite, il pose une question à ce maître de la loi. Il le dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Et le maître de la loi répond, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Alors Jésus lui dit, va et toi aussi fais de même. Et c'est cette parole que j'aimerais nous laisser en tant que communauté, en tant qu'individu et en tant que communauté, de nous dire, allons et nous aussi faisons de même. Et à vous et à moi, va et moi aussi fais de même. Portez cette justice là où nous pouvons la porter. Porter cette justice là où Dieu nous appelle à aller la porter. Puis je trouve que ces paroles et cette parole et cet exemple de Martin Luther King, cet exemple aussi avec mon collègue Norbert, dans une période qui commence à venir un peu tendue, moi je commence à venir un peu inquiet de tentation de repli sur soi, tentation de vouloir régler les problèmes par la force, ces paroles pour moi, elles résonnent d'autant plus fort. Et l'enseignement et l'exemple du Christ résonne d'autant plus fort dans mon cœur. De se dire que là, ces paroles « va et toi aussi fais de même », elles commencent, gentiment, ça commence d'après moi, à prendre de la force, de l'importance, parce que nous vivons dans un monde qui est tiraillé sur ces questions-là, qui est tiraillé et la pression augmente petit à petit. J'ai encore lu ce matin les nouvelles qui nous viennent directement d'Allemagne, c'est à côté l'Allemagne, avec ces affrontements entre pro et anti-migrants, qu'on peut les appeler comme ça, qui commencent à venir d'une violence assez forte, de se dire, mais comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on va se positionner avec ça? Comment est-ce que nous, sur ces questions-là de justice élémentaire, on va agir selon ce que Dieu nous demande de faire? Alors qu'il nous inspire, qu'il nous permettent de sortir la tête du sable et de sortir la tête des nuages et d'affronter le monde tel qu'il est avec cet espoir définitif que Dieu a choisi de se révéler dans ce monde-là. Puis que la force qu'il nous donne par son Saint-Esprit, c'est une force qui nous aide à agir dans ce monde-là et pas un autre. Et je crois que toute la vie de Martin Luther King est portée par cet espoir, non pas que les choses peuvent définitivement changer, mais par cet espoir que Dieu est derrière nous et avec nous pour nous aider à agir selon sa volonté. Amen.